Bonjour, je m'appelle Pierre Champy, je suis professeur en faculté de pharmacie à l'université Paris-Saclay. Et donc Thierry m'a demandé d'intervenir sur la problématique des champignons médicinaux. On va essayer de faire un petit état des lieux et de voir quelles sont les perspectives thérapeutiques relatives à ces organismes particuliers, dont on va voir qu'ils sont assez variés. Donc on va faire un petit tour d'horizon de la diversité chimique chez les champignons, excusez-moi. On va voir qu'il y a beaucoup de molécules chez les champignons qui sont susceptibles d'interagir avec l'organisme humain, des toxiques, des molécules qui, au contraire, vont être bénéfiques, dont le rapport bénéfice-risque est moins bon. On va regarder un petit peu quelle est la tradition européenne par rapport à l'utilisation de champignons dans un cadre de phytothérapie, donc pour des emplois très, très directs et très bruts, ingestion directe, infusion, application sur la peau. Ensuite, on ira regarder un petit peu du côté asiatique. Et puis, je vous parlerai de l'état de la recherche actuelle sur ces champignons particuliers. Alors, je pense qu'il y a déjà eu la conférence de Sophie ce matin, et peut-être que vous étiez hier à la conférence de Marc-André Sellos, mais donc, comme vous le savez, les champignons ont longtemps été considérés comme des végétaux dits inférieurs, des végétaux qui n'auraient pas la capacité de faire de la photosynthèse, donc de se nourrir. Du carbone atmosphérique en utilisant l'énergie du soleil. Donc ces champignons, on se doutait du fait que c'était quand même des êtres qui étaient fort différents des végétaux, mais finalement la séparation d'un point de vue taxonomique ne s'est faite qu'au milieu du XXe siècle. Donc les champignons qu'on appelle le règne fongique, hein, donc fongi, correspond à des organismes pluricellulaires très généralement, avec des cellules qui comportent un noyau et des compartiments, donc ce sont des eucaryotes. Il n'y a pas d'organes spécialement différenciés, la plupart sont invisibles à l'œil nu, et ce sont des organismes qui sont beaucoup plus proches des animaux qu'ils ne le sont des végétaux. Dénués de capacité à faire de la photosynthèse, les champignons sont obligés de tirer leur énergie et leurs molécules carbonées de leur environnement, généralement par la dégradation de matières vivantes ou de matières en décomposition. Donc, ce sont majoritairement des organismes qui fonctionnent sur un mode saprophyte, donc ils se développent aux dépens d'une matière déjà existante. On rencontre également un certain nombre de champignons qui sont des parasites. On a quelques champignons qui sont prédateurs, c'est assez étonnant, qui chassent des vers dans le sol. Et puis, comme on l'a vu hier avec Marc-André, beaucoup de champignons qui se développent dans des végétaux ou contre des végétaux. Et on rencontre un certain nombre de champignons qui sont des symbiotes de végétaux ou des symbiotes d'autres organismes. Et puis, ce sont évidemment des organismes qui peuvent se développer sur des animaux ou dans des animaux et qui sont généralement du coup des pathogènes. Donc, on peut penser aux candidats qui génèrent du muguet chez le jeune enfant, ou encore à des champignons entomopathogènes, donc pathogènes d'insectes, comme c'est représenté ici. Et donc, l'importance fondamentale des champignons dans le fonctionnement de la biosphère a été très largement évoquée hier en fin de journée. Alors, la science décrit à peu près 150 000 espèces de champignons et estime qu'il doit y avoir à peu près 2,5 millions d'espèces différentes. Donc ici, j'ai repris une figure d'un rapport du jardin botanique Kew Gardens, qui tous les ans établit un rapport sur les champignons et les végétaux du monde, et donc qui reprend le nombre d'espèces approximatif par sous-partie dans le groupe des champignons. Donc on va distinguer 8 embranchements, et dont certains vont nous intéresser plus particulièrement. Alors la majorité de ces champignons, comme je l'ai déjà dit, ne sont pas visibles à l'œil nu, mais il y en a un certain nombre qui peuvent former des colonies qui sont visibles. Et puis il y en a également qui vont établir des sporophores ou des carpophores, donc des sortes d'organes qu'on a tendance à cueillir pour les manger à tort ou à raison, et qui vont permettre l'émission de spores. Donc je vais revenir sur la classification un petit peu plus tard. Alors, si on considère les végétaux en comparaison avec les champignons, on a plus d'espèces qui sont décrites, à peu près 400 000 espèces de végétaux décrites. mais on a découvert beaucoup plus d'espèces de végétaux que de champignons par rapport à l'estimation de la biodiversité réelle. Et donc, pour les végétaux, on a plus ou moins a priori tout décrit. Donc, la science estime qu'il y a encore à peu près 50 000 espèces qui sont à décrire, alors que pour les champignons, on est quand même très très loin du compte. Si on regarde les végétaux, donc à peu près 400 000 espèces, il y en a entre 25 000 et 60 000 qui sont utilisées à des fins médicinales. Ce qui est beaucoup, et ce qui est également une fourchette relativement large. Donc on va s'interroger sur le nombre de champignons médicinaux qui sont décrits sur les 155 000 espèces qui sont connues. Alors nous, on va s'intéresser principalement, dans un premier temps, à des ascomycètes. Donc ce sont des champignons qui sont plutôt de type moisissure ou qui peuvent être des pathogènes, et notamment des phytopathogènes, mais pas exclusivement. Et éventuellement, on peut avoir des formations de sporophores, de carpophores, donc de chapeaux, qui sont visibles, mais c'est relativement rare. C'est plutôt l'apanage des basidiomycètes, et ces basidiomycètes sont très majoritairement les champignons qu'on va rencontrer dans nos prés, dans nos forêts, et qu'on va tendance à voir les récolter. Donc des champignons qui sont dits, entre guillemets, macroscopiques. Et donc on va pouvoir parler un petit peu de chimiodiversité, donc de diversité chimique et d'interaction avec l'homme. Comme vous le savez, il y a un certain nombre de champignons basidiomycètes qui sont tout à fait comestibles, mais il y en a beaucoup également qui sont particulièrement dangereux ou qui sont à risque simple de tomber un petit peu malade, avec des intoxications qui sont sur un mode alimentaire, avec de l'erreur de ramassage ou de la contamination de récolte. Donc on est souvent sur de la confusion entre des espèces comestibles et des espèces qui sont proches, avec parfois une comestibilité qui est assez incertaine. Il y a plusieurs grands syndromes d'intoxication qui sont décrits et qui sont une expression de la diversité des molécules qui sont élaborées par ces champignons pour se défendre. Alors, sur ce graphe, vous retrouvez la saisonnalité des intoxications par les champignons et qui coïncide évidemment avec les périodes de cueillette. Alors, on retrouve les accidents évidemment par le biais de la cueillette domestique, mais également par un biais commercial. C'est une possibilité. Alors on décrit une douzaine de syndromes qui sont associés à la consommation de champignons toxiques et qui vont de simples troubles gastro-intestinaux pour lesquels généralement on ne connaît pas les molécules, où on a des nausées, des vomissements et des diarrhées qui peuvent être parfois intenses, et puis d'autres syndromes qui sont plus ou moins connus. Donc je reviendrai tout à l'heure sur le syndrome muscarinien. C'est une stimulation d'un système de neurotransmetteurs particulier, le système cholinergique. Des syndromes, on va avoir à la fois des troubles digestifs et des troubles neurologiques. C'est le cas pour le muscarinien, c'est également le cas pour le panthérinien, qui est associé à la manie de Panthère. Des signes qui pourront être cardiovasculaires, des hémolyses, donc des ruptures des globules rouges, des phénomènes hallucinatoires, le syndrome narcotinien, parfois des atteintes rénales et puis parfois des atteintes hépatiques qui sont généralement mortelles. Alors, on va prendre quelques exemples. Donc, j'ai mis un petit peu de structure chimique dans mes diapositives. Ce n'est pas pour vous perdre, c'est un petit peu pour faciliter l'illustration et pour ceux qui auraient une accointance pour les molécules. On peut parler, par exemple, pour les champignons toxiques, des coprins qui sont consommés, mais qui sont consommés en quantité soit suffisamment faible, soit qu'on n'accompagne pas d'alcool. Dans les coprins, on va retrouver un dérivé d'acide aminé qui s'appelle la coprine, qui est une molécule qui va se décomposer de manière relativement rapide dans l'organisme pour donner une petite entité qui va venir se combiner avec l'enzyme qui vient dégrader l'éthanol, l'alcool, et qui du coup va générer un effet en tabuse, donc une intolérance à l'alcool avec une gueule de bois particulièrement intense. On peut citer d'autres exemples plus ou moins insidieux. Donc l'exemple des gyromitres avec la gyromitre phosmoryle, donc qui a été consommée d'un point de vue alimentaire, mais qui peut entraîner une toxicité neurologique avec des convulsions. Éventuellement des atteintes hépatiques. Ça, c'est sur un mode d'exposition aiguë et maintenant c'est relativement connu et du coup on a une interdiction de commercialisation de ces champignons. Et il y a une espèce qui est très proche. Qui est Gyromitra gigas, dont on s'est aperçu assez récemment qu'elle pouvait causer des intoxications au long cours. Donc c'est un champignon qui ressemble un peu à une morille et qui est consommée dans certaines régions et pas dans d'autres. Et dans un petit coin des Alpes, près des Arcs et de la Plagne, à Montchavin-les-Coches, il y a une tradition de récolte dans un village de ce champignon. Et dans ce village, on a énormément de sclérose latérale amyotrophique, des pathologies où on a une dégénérescence des neurones moteurs. Donc c'est une maladie qu'on appelle maladie de Charcot, qui est une maladie irréversible. C'est une maladie généralement d'origine génétique, qui est vraiment à très bas bruit dans la population générale. Mais là, on a un nombre de cas impressionnant par rapport au nombre d'habitants au niveau local. Et on a pu déceler que c'était lié à cette tradition alimentaire spécifique. Donc en l'occurrence, on connaît la toxine, elle s'appelle la gyromitrine, et c'est une molécule qui vient interagir avec le métabolisme, avec la transformation de la vitamine B6. Alors dans des champignons qui sont plus facilement identifiés comme étant franchement dangereux, et qui ont même tendance à cristalliser un imaginaire collectif important, les amanites. Alors des amanites, comme vous le savez probablement, il y en a qui sont comestibles, donc c'est l'amanite des Césars en particulier. Il y en a qui sont simplement toxiques, on va y revenir, et il y en a qui sont mortels, avec des syndromes hépatiques, donc avec des hépatites fulminantes qui surviennent dans les 48 heures après la consommation et on n'arrive pas à sauver les gens. Alors en l'occurrence, dans les amanites, on a une particularité chimique. Dans ces amanites toxiques, on a des peptides, donc des petits assemblages d'acides aminés cycliques, dont une partie, comme dit un de mes collègues, viennent abraser les épithéliums, c'est-à-dire que ça vient attaquer les membranes biologiques. Ça favorise la pénétration d'une autre classe de toxines dans les cellules et elles viennent empêcher la production de protéines, et notamment au niveau du foie, qui est le premier organe qui vient trinquer en cas d'ingestion de ces champignons. Et donc là, on a des décès à déplorer tous les ans. C'est ce qu'on appelle le syndrome phalloïdien. Mais il y a un autre syndrome qui est lié à l'ingestion d'autres amanites, avec notamment la consommation d'amanites panthères ou d'amanites tumouches, où on a des signes qui sont essentiellement des signes centraux, c'est-à-dire des signes où c'est le système nerveux central qui est touché. Donc cette amanite tumouche, c'est vraiment l'emblème même du champignon. C'est la représentation typique qu'on va faire d'un champignon, c'est ce champignon rouge avec des points blancs qui sont des restes du voile. Alors ces champignons sont très bien connus pour cette toxicité très particulière depuis longtemps, avec une entrée dans le mythe, dans la légende. Alors ici, vous avez une représentation de l'arbre de la connaissance, avec Adam et Ève, tentés par le serpent, et l'arbre de la connaissance est ici, l'amanite tumouche. Cette amanite tumouche, on estime que c'était probablement le premier hallucinogène rituel qui a été utilisé par l'humain dans la vallée de l'Indus. Donc on parle d'entéogène. Entéogène, c'est qui va générer Dieu en soi, ou qui va permettre d'avoir l'établissement d'une relation avec le divin. Alors cette amanite, elle est utilisée encore maintenant dans des rites chamaniques, notamment en Laponie, en Amérique du Nord, et dans un cadre sibérien, où on peut arriver à la transe également par la danse et le tambour, mais l'amanite aide énormément à rentrer en transe. Alors c'est un cas intéressant, l'amanite tumouche, parce qu'on va rencontrer à la fois des toxines qui vont avoir des répercussions désagréables au niveau du corps en général, avec la présence d'une molécule qui est la muscarine, ce composé, et qui vient activer des récepteurs aux neurotransmetteurs acétylcholine, qu'on retrouve notamment au niveau des ganglions nerveux, au niveau du système nerveux périphérique. Donc ça va engendrer des diarrhées, une sudation très importante, une modification du rythme cardiaque, avec un ralentissement du rythme cardiaque. Donc une toxicité potentielle, ça ne va pas forcément tuer, en l'occurrence. Et puis, on retrouve également un dérivé d'acide aminé, qui s'appelle l'acide ibotanique, qui est dégradé très rapidement par l'organisme en un autre composé qui s'appelle le mucimol. Et ce mucimol pénètre à travers la barrière hématoencéphalique, qui passe dans le cerveau, pour venir agir sur des récepteurs au neurotransmetteur GABA, qui est la cible usuelle des benzodiazépines, de l'alcool. Et donc, ça va générer une ébriété avec des visions. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que dans des pratiques, notamment lapone, c'est le chaman qui va consommer les champignons, c'est lui qui fait filtre à muscarine, et les officiants vont boire l'urine du chaman, dans laquelle on va retrouver du mucimol excrété. Et donc, eux seront beaucoup moins malades. Alors, manifestement, cet emploi dans un cadre non monothéiste de ces amanites a été un élément qui a été assez fort dans les constructions mentales relatives aux champignons. Et donc, ceux qui ont suivi la conférence de Sophie ont déjà entendu parler des théories sur les peuples mycophiles et mycophobes, avec les époux Wasson, qui étaient les premiers ethnomycologues. Elle était d'origine russe, lui était d'origine anglo-saxonne. Tous les deux vivaient aux États-Unis et ils avaient une perception extrêmement différente des champignons. Lui avait, comme tous les anglo-saxons, très peur des champignons, qu'il jugeait de manière extrêmement défavorable. Et d'ailleurs, en anglais, un champignon, ça désigne comme toadstool, un tabouret à crapaud. Alors qu'elle, venant d'un peuple slave, avait une appétence extrêmement forte pour les champignons et y associait des connotations extrêmement positives. Et les époux Wasson ont remarqué qu'on avait, entre des peuples d'Europe centrale et des peuples anglo-saxons, une très grande différence dans la diversité des champignons qui étaient consommés. Très faible diversité du côté anglo-saxon, très forte diversité du côté slave. Et on peut retrouver ça à une échelle un peu plus large, et on la abordera tout à l'heure. Alors en tout cas, on a des basidiomycètes, donc des champignons à chapeau qui peuvent être fortement toxiques, qui sont à très fort risque, et on a des accidents dans différents cadres, si bien qu'on a une réglementation spécifique par rapport à ça, avec plusieurs textes au journal officiel qui viennent interdire la vente de certaines espèces de champignons. Et l'Agence de sécurité des aliments, l'ANSES, a publié il y a quelques années un avis relatif à une liste positive des champignons qui pouvaient être consommés d'un point de vue alimentaire. Alors, de manière très intéressante, dans cette liste, l'ANSES exclut des champignons qui ne sont consommés que après une transformation particulière, une préparation qui est probablement un facteur de détoxification. Donc notamment des champignons qui ne sont consommés que après des macérations au vinaigre ne sont pas retenus dans ce texte. Alors on a vu une diversité de molécules dans nos basidiomycètes très largement visibles, avec des activités qui pouvaient s'exercer à différents niveaux du corps humain, différentes cibles pharmacologiques. On peut se replacer dans un contexte un petit peu plus large d'écosystème, comme ça a été fait hier avec Marc André. Et j'ai piqué cette jolie diapositive à un de mes collègues. Elle représente le nombre de bactéries du groupe des actinomycètes et de champignons rencontrés dans un gramme de sol. Dans un gramme de sol, vous avez entre 10 000 et 1 million de cellules de champignons qui sont présentes. Et puis, les bactéries sont généralement 1000 fois plus nombreuses. Et on a une compétition qui va se faire pour la place et une compétition pour les substrats nutritifs. Et la lutte qui va pouvoir s'établir entre les organismes, elle est largement médiée par le biais de petites molécules, des substances naturelles. SN sur cette diapositive, qui sont émises dans le sol et qui vont avoir des effets délétères sur les compétiteurs, avec des activités antifongiques pour de la lutte entre champignons, des activités antibactériennes, bactériostatiques ou bactéricides, pour de la lutte entre champignons, voire entre bactéries elles-mêmes. Et avec la mise en place de tout un phénomène de résistance, ce qu'on appelle un résistome, avec des mécanismes qui permettent à des organismes agressés par les petites armes chimiques de leurs compétiteurs, donc qui leur permettent de résister. Et donc, il y a eu toute une évolution de ces substances naturelles pour s'adapter à des cibles pertinentes, plus ou moins larges, et pour résister. Alors, on va évoquer un petit peu cette lutte chimique non visible, avec des problématiques liées à des moisissures et à des champignons qui viennent s'attaquer à des végétaux et qui rendent des végétaux malades, donc des phytopathogènes. Donc on va parler un petit peu du genre Fusarium et on va parler de moisissures des genres Aspergillus et Penicillium. Je ne vais pas développer sur l'étymologie de ces termes. Donc ce sont des champignons qui vont pouvoir développer des colonies qui pourront être visibles à l'œil nu quand vraiment elles sont largement développées. Alors ces champignons ont des capacités de fabrication de molécules pour lutter contre leurs compétiteurs avec des composés qui peuvent être extrêmement toxiques pour l'homme ou tout au long de la chaîne trophique, donc notamment toxiques pour des animaux avec éventuellement une toxicité indirecte pour l'homme qui consommerait ces animaux. Donc là, on va parler de mycotoxines. Donc le terme mycotoxine, on peut l'entendre au sens large en englobant la muscarine ou l'acide lipoténique des amanites, mais généralement, quand on parle de mycotoxines, on est plus particulièrement sur des toxines qui se retrouvent dans la chaîne alimentaire et qui viennent intoxiquer l'homme et l'animal par le biais de son alimentation. Alors ces mycotoxines, elles sont d'une grande diversité. J'ai pris ici quelques exemples. Elles posent des problèmes de contamination, soit par le développement pathologique au champ, soit par le biais de développement de moisissures au moment du stockage et du transport, des céréales, des arachides, des plantes médicinales dans une moindre mesure, des épices. Et c'est beaucoup un problème de zone tropicale ou un problème de forte humidité. Donc on va pouvoir rencontrer des composés très variés, dont un certain nombre sont surveillés au niveau européen et finalement dans beaucoup de pays ou dans beaucoup d'autres régions. Et on s'assure du fait que des aliments trop contaminés ne vont pas se retrouver disponibles pour le consommateur. Donc on arrête beaucoup d'importations d'aliments bruts ou transformés à nos frontières. Et puis on fait une surveillance sur le marché européen. Alors surveillance notamment des aflatoxines, qui sont plutôt produites par des moisissures du genre Aspergillus. Donc ces aflatoxines sont des toxines du foie qui vont générer des cancers hépatiques, avec une très forte incidence des cancers liés aux aflatoxines dans des pays du Sud, notamment en Afrique subsaharienne. Les ochratoxines, donc également produites par des moisissures de type Aspergillus, mais également par des pénicilliums, qui sont des toxines au niveau rénal. Les trichotessènes, avec comme chef de file la vomitoxine. Là, les syndromes sont un peu plus variés. C'est des molécules qui peuvent être mortelles en exposition aiguë et qui vont générer généralement des cancers hépatiques. Les fumonésines, dont les manifestations toxiques sont variées, mais ça va plutôt être de la modification du statut hormonal chez le vertébré. Et puis, la patuline, qui se développe sur des moisissures qu'on va beaucoup retrouver sur des fruits, et notamment sur des pommes, avec une contamination récurrente de compotes, de jus de pommes, etc. Et cette patuline n'a pas de cible particulière. En fait, c'est une petite molécule extrêmement réactive qui va venir réagir avec les protéines et qui va venir empêcher des processus physiologiques normaux qui vont venir tuer les cellules et qui ont un potentiel cancérigène qui est extrêmement fort chez l'animal. Donc, molécule a priori extrêmement dangereuse. On ne connaît pas d'incidence de cancer, mais en tout cas, au laboratoire, la patuline est une molécule d'une dangerosité assez extrême et les niveaux de patuline qui sont admis dans l'alimentation réglementairement sont extrêmement bas. Alors on peut se poser des questions par rapport au changement climatique qui, avec le réchauffement climatique, avec une pluviométrie qui pourrait être plus importante dans certaines régions, les scénarios relatifs à l'exposition, à la fréquence des mycotoxines, notamment dans nos céréales, ou à l'exposition aux mycotoxines, est assez inquiétante. Donc, vous avez sur cette carte de chaleur le niveau de production d'aflatoxines, enfin le niveau de contamination par les aflatoxines du maïs, avec des projections en fonction de l'augmentation de la température à 100 ans. Et déjà, actuellement, avec le réchauffement qu'on observe, on est obligé transitoirement de modifier les taux acceptables dans des céréales d'aflatoxines de manière à pouvoir nourrir les populations d'Europe centrale et à ne pas retirer tous les lots de céréales du marché. Donc, si ça vous intéresse, je vous renvoie vers le site de l'Autorité européenne des aliments, l'EFSA, qui propose des scénarios qui sont un peu catastrophiques. Alors, parmi ces mycotoxines qu'on va retrouver notamment dans des céréales, il y en a qui sont très célèbres avec les ergots, et en particulier l'ergot de seigle. Donc, c'est un champignon pathogène qui vient se développer à la place du grain dans les céréales. Donc, c'est le genre Claviceps, c'est la famille des Clavicipitacées. Donc, ici, vous avez une céréale dite ergotée, et ici vous avez, donc c'est un sclérote, et ça n'émet pas de spores, et ça va relarguer un organe qui est susceptible de répandre des spores. Donc je vais vous montrer sur une photo, voilà des céréales ergotées, vous voyez que l'ergot a plus ou moins la même taille qu'un grain de riz. Ici, une céréale ergotée au champ. Alors, de manière récurrente, on observait, c'est bien décrit au Moyen-Âge, puis à la Renaissance, et même de manière antérieure, des épidémies qui étaient souvent jugées comme des punitions divines, où les gens touchés développaient des phénomènes hallucinatoires extrêmement violents et des gangrènes des membres. C'est ce qu'on appelle donc l'ergotisme maintenant, le feu de Saint-Antoine, parce qu'on a une sensation de brûlure au niveau des membres, le mal des ardents, à cause toujours de cette sensation de brûlure. On priait Saint-Antoine pour se soigner en l'occurrence. Donc on a des tableaux qui sont assez hétérogènes en fonction de la composition de l'ergot qui se développe dans la céréale. Donc c'est potentiellement une question de variété, potentiellement une question de conditions environnementales, mais on va avoir soit une dominance des effets sur le système nerveux central, soit une dominance des effets dits périphériques, avec ces phénomènes de sensation de brûlure. Donc en fait, les constituants de l'ergot agissent beaucoup sur le système de la sérotonine qui est impliqué dans des phénomènes de cognition et qui est impliqué également dans des phénomènes de vasoconstriction, vasodilatation. au niveau des artères, avec des effets principalement vasoconstricteurs qui vont entraîner des syndromes de rénaux, donc une hypoxie au niveau de des extrémités et avec des gangrènes. D'où des représentations très classiques, ici de Saint-Antoine, avec des membres qui ont été perdus par des victimes de l'ergotisme, ou aussi ce tableau de Bruegel, où on voit des gens qui ont été victimes de la pathologie. Alors on a quand même pu identifier relativement rapidement, probablement à la fin du Moyen-Âge, le fait qu'il fallait faire un tri dans les céréales. Il y avait un risque qui était plus ou moins toléré, notamment en Sologne. Les paysans avaient tendance à conserver leurs céréales ergotées pour pouvoir exporter le reste, et ils essayaient de ne pas en manger trop. Alors cet ergotisme existe toujours. Maintenant, on est protégé par le biais des mesures sanitaires, mais il y a toujours de l'ergotisme en Asie, par exemple, ou à Madagascar. De temps en temps, il y a des flambées épidémiques. Les molécules qui sont responsables sont des composés dits alcaloïdiques. Un alcaloïde, c'est un composé azoté qui a un caractère basique, pour ceux qui ont fait un petit peu de chimie. Donc c'est soit des alcaloïdes simples, ce que j'entoure à l'écran, soit des alcaloïdes plus complexes qui portent une partie qui est en fait un assemblage de trois acides aminés. Alors ici, vous avez un des chefs de file qui s'appelle l'ergotamine, qui est une molécule qui a été utilisée dans un cadre thérapeutique. Activité pharmacologique majeure, du coup, il y a eu une recherche pharmaceutique sur la question, qui a été menée par les laboratoires Sandoz à Bâle dans les années 30, enfin à partir des années 30, avec un chimiste qui dirigeait ces travaux, qui est Albert Hofmann, qui est très connu et qui a permis le développement de plusieurs médicaments, soit des médicaments qui touchent la sphère de la sérotonine, par exemple la dihydroergotamine, dérivée simple de la molécule que j'ai montrée précédemment, donc utilisée dans les crises de migraine pour son effet vasoconstricteur. Et puis, donc c'est à droite, pardon, et à gauche, la bromocryptine, qui vient agir sur le système de la dopamine et qui est utilisée marginalement dans le traitement de la maladie de Parkinson ou encore pour arrêter la lactation. Alors, ces molécules ont une marge thérapeutique étroite. La marge thérapeutique, c'est la différence qu'il y a entre la dose active et la dose toxique. Donc, c'est des médicaments qui ne sont pas faciles à manipuler. Et c'est des médicaments qui tendent à être retirés du marché à cause de l'étroitesse de cette marge thérapeutique et également à cause d'autres problèmes sanitaires qui sont associés et qui n'avaient pas été anticipés. Mais ça a été des molécules importantes, dont on n'arrive pas à se passer pour certaines, notamment la bromocryptine. Alors parmi ces tentatives de genèse de nouvelles molécules par le biais de la transformation de composés naturellement présents dans l'ergot, Hofmann a obtenu toute une série de dérivés, dont un particulier, et pendant la synthèse, il s'est un petit peu bizarre. Donc c'était une époque où les chimistes étaient également pharmacologues et puis également largement expérimentateurs. Il s'est dit, je vais en prendre et puis je vais voir ce que ça fait. Ça ira plus vite que de tester chez un animal. Donc c'était le diéthylamide de l'acide lysergique. L'acide lysergique, c'est ce que j'entoure à l'écran, donc présent naturellement. Il a fait un dérivé de type diéthylamide par une réaction chimique simple. Ce composé s'appelle le LSD. Il était classé LSD25 pour son nom dans... Ah, pardon. Merci. Donc, je n'ai pas de pointeur, je ne vais pas vous montrer. Donc, le bas de la molécule, c'est l'acide lysergique, mais peu importe. Il a décidé d'essayer le composé. Il en a pris à peu près 100 fois la dose active. Il est rentré chez lui à vélo. Il a mis un petit peu de temps à rentrer. Il relate son aventure dans un bouquin qui s'appelle LSD, mon enfant terrible, qui est fort intéressant. Et tous les ans, il y a une commémoration et les gens font le voyage en vélo entre l'ancien site Sandoz et la maison de Hofmann. Hofmann, qui a vécu en très bonne santé jusqu'à l'âge de 102 ans et qui s'est très largement intéressé à la chimie des plantes utilisées et des champignons utilisés en tant à des fins rituelles. Alors, la dernière crise d'ergotisme qu'on ait eue en France, c'était dans les années 50, c'était dans le Gard, à Pont-Saint-Esprit, tout un village qui a été touché. Il y a eu à peu près 300 malades, plusieurs décès. On a hospitalisé une partie des personnes qui déliraient le plus. Et il y a eu beaucoup d'hypothèses qui ont été émises. Donc ces champignons peuvent être toxiques, ils peuvent être également extrêmement utiles à l'homme. Alors outre l'intérêt pour l'homme dans un cadre global dans la biosphère, et donc intérêt pour le fonctionnement des écosystèmes d'une manière générale, on exploite très très largement les champignons, notamment à des fins alimentaires, avec par exemple la levure de boulanger ou levure de bière, c'est la même chose, Saccharomyces boulardii, Saccharomyces cerevisiae. Il y a plusieurs souches. On peut consommer cette levure directement de manière alimentaire. On l'utilise pour la panification, on l'utilise pour la fermentation, pour obtenir des alcools, notamment la bière. Et puis, c'est également un médicament, puisque la levure de bière est reconnu pour son utilisation dans la prévention des diarrhées ou dans le traitement des diarrhées, avec un usage qui est bien établi au niveau européen pour le traitement adjuvant des diarrhées. C'est-à-dire qu'il y a des données cliniques, des données scientifiques chez l'homme qui sont suffisantes pour effectivement pouvoir faire des recommandations d'utilisation. Et puis cette levure de bière qui améliore la digestion, on la retrouve également comme ingrédient de complément alimentaire. On peut également penser à des moisissures, comme les pénicilliums que j'ai déjà évoqués, qui ont un intérêt très net dans un cadre agroalimentaire, avec, ou dans un cadre alimentaire avec notamment de la participation à l'élaboration de fromage. Par exemple, le Roquefort a des veines bleues qui correspondent à des colonies de pénicillium roqueforti, qui est d'ailleurs une source de mycotoxines, une source de roquefortine, la molécule à l'écran, composé pour lequel il existe des seuils. C'est un composé assez toxique. Et puis, évidemment, les moisissures du genre pénicillium ont été et sont toujours des sources de médicaments majeurs et ont permis la découverte de la pénicilline et des pénicillines ensuite. Alors, découverte qui est le fruit de la sérendipité, donc de la découverte scientifique par hasard, par Fleming, donc un bactériologiste qui est parti en vacances, qui est rentré dans son labo, qui a trouvé des boîtes de pétri qu'il avait oubliées, et là où il aurait dû y avoir exclusivement une culture de bactéries, il y avait des moisissures développées au milieu avec des halos d'inhibition de croissance de bactéries. Il ne s'est pas tellement intéressé à la question, ça a plutôt été repris par des gens qui travaillaient avec lui. Il y avait déjà eu des observations de ce type-là qui avaient été faites précédemment, et ça a permis d'isoler le composé qui médiait cette inhibition. On est vraiment dans le cadre de cette lutte chimique que j'évoquais dans les sols, avec l'isolement de la pénicilline G, que je ne peux pas vous montrer avec ma souris, donc la molécule qui est ici, et qui a pu être produite en très grande quantité très rapidement, et qui a permis de répondre à des problèmes de santé pour lesquels on n'avait pas de solution, donc les infections bactériennes, avec un spectre relativement large. Alors c'est le chef de file de la série des pénicillines, et qui comporte un petit carré au milieu, ainsi que le bêta-lactam qu'on va retrouver dans d'autres séries, notamment dans les céphalosporines. Et donc, on élabore naturellement des composés de ce type-là, des pénicilliums, mais également certaines bactéries. Et donc, ce sont des molécules qu'on obtient à l'aide de fermentation, notamment de pénicillium, en milieu industriel, et qui sont absolument indispensables à la santé mondiale. Donc sont représentés ici notamment l'acide clavulanique qui est utilisé pour lutter contre des résistances à la pénicilline. Ça vient tromper les mécanismes de résistance mis en place par des bactéries. Donc molécule absolument majeure pour la santé humaine et ce n'est pas la seule produite par des champignons. Toujours à partir de pénicillium, la griséofulvine, qui est un composé antifongique, qui a été obtenu à partir de pénicillium griséofulvum. Donc utilisation très importante précédemment, maintenant c'est plutôt dans des problèmes d'infection fongique au niveau dermatologique. Et puis on a également des médicaments issus de champignons dans d'autres indications, par exemple la cyclosporine, obtenue à partir d'un champignon du sol de Norvège, un Tolipocladium. Donc la cyclosporine, c'est un immunosuppresseur extrêmement puissant qui est utilisé pour prévenir le rejet de greffe et qui est utilisé également dans la polyarthrite rhumatoïde et dans quelques autres pathologies. On peut également citer la myriocine. Alors, c'est également une molécule qui va avoir un caractère immunosuppresseur, donc qui est issue d'un cordyceps. On va revenir sur les cordyceps, des champignons assez étonnants. Donc cette molécule est une molécule de lutte contre la concurrence qui ressemble beaucoup à des sphingosines. Les sphingosines, ce sont des dérivés d'acides gras qu'on va retrouver dans beaucoup d'organismes et qu'on va retrouver notamment chez l'humain, et on n'utilise pas la myriocine de manière directe, mais ça a été une source d'inspiration pour le chimiste, et ça a permis d'élaborer une molécule synthétique qui est le fingolimode, donc composé qui ressemble pas mal à la myriocine et qui a ce mécanisme d'action de cibler la synthèse des sphingosines, les récepteurs des sphingosines, ce qui est un mécanisme d'action tout à fait nouveau. Et puis une molécule très très largement employée, une série de molécules très largement employées, blockbuster de l'industrie pharmaceutique, la série des statines, qui a été découverte dans une moisissure du riz, qui a une belle teinte rouge. Donc c'est la levure rouge de riz, qu'on présente plutôt comme levure de riz rouge, parce que ça donne moins l'impression aux gens qui consomment des moisissures. Et donc dans cette levure de riz rouge, c'est un aspergillus, c'est un monascus. le composé majoritaire est ce composé, la monacolinica, que vous ne voyez pas, excusez-moi avec ma souris, la monacolinica, qu'on appelle également l'ovastatine, première statine mise sur le marché. Je vais m'arrêter 2 secondes sur le mécanisme d'action parce qu'il est assez marrant. Donc les statines, c'est des composés qui vont diminuer les taux de cholestérol. Le cholestérol est un composé du grand groupe des terpènes et l'ovastatine, la monacolinica et les autres statines viennent inhiber la première étape de fabrication des terpènes. Donc du coup, ça a une certaine toxicité. Et c'est une cible qui est très conservée dans l'évolution. Et donc c'est, d'un point de vue évolutif, extrêmement intelligent de la part du Monascus d'avoir développé ces molécules qui vont pouvoir lutter contre plein de compétiteurs différents. Et donc les statines sont soit des composés naturels, soit inspirés directement de ce produit. Donc là, on était dans du médicament classique. Qu'est-ce qu'il en est d'utilisation plus brute, plus traditionnelle, et dans des indications éventuellement plus larges? Alors on sait qu'on utilise des champignons à des fins thérapeutiques depuis extrêmement longtemps. On a des traces archéologiques de ça, notamment avec Ötzi, un corps momifié qui a été retrouvé dans le Tyrol. Donc c'était manifestement un voyageur qui trimballait pas mal de choses dans sa besace. On a retrouvé des restes de la besace et de son contenu. Et cette momie est vieille, d'il y a plus de 5 000 ans. Et Ötzi trimballait avec lui de l'amadouvier, donc dont on verra qu'il pouvait avoir des emplois thérapeutiques, il était utilisé surtout pour entretenir du feu, et du polypore du bouleau, qui a des activités entelmintiques, c'est-à-dire que c'est un vermifuge relativement efficace. Donc manifestement, à l'époque préhistorique, on utilisait des champignons pour se soigner. Alors on peut s'intéresser à ce qui a pu être écrit dans les premiers écrits médicinaux. Notre thérapeutique, ou en tout cas telle qu'elle était pratiquée jusqu'à la fin du siècle des Lumières, est inspirée de principes qui sont grecs et qui sont romains. Et donc beaucoup d'auteurs ont laissé des traces dans ces mondes grecs et romains à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, depuis Hippocrate. Alors en l'occurrence, quand on reprend ces textes, il y a très peu de mentions de champignons. De toute façon, c'est très difficile d'identifier les espèces qui sont citées. Il y a un petit peu de citation de l'utilisation de champignons comme purgatif, plutôt pour des polypores, un peu comme anti-infectieux, mais globalement, les citations sont peu importantes. Et quand on présente des champignons, notamment chez Pline, c'est avec énormément de dédain ou une expression d'une certaine crainte ou d'un certain risque. Si on regarde dans des populations qui sont réputées mycophiles, donc notamment en Europe centrale, on retrouve en revanche une tradition ancienne, dont on retrouve des attestations qui sont plutôt de l'ordre médiéval ou renaissance, une tradition ancienne de l'utilisation des polypores. Alors, avec des emplois importants dans un cadre de protection rituelle ou de protection magique, polypores portés sur soi, polypores pour décorer des maisons, et puis des indications de thérapeutiques populaires, qui sont quand même relativement restreintes. Donc on va retrouver une tradition un peu perdue, ou même carrément perdue, de l'emploi de l'amadouvier, le polypore allume-feu, qui était utilisé essentiellement pour faire de la cautérisation, ce qui est relativement logique finalement, et beaucoup utilisé pour arrêter les épanchements sanguins. Donc on parlait d'agaric des barbiers ou agaric des chirurgiens. Donc c'était utilisé pour favoriser l'arrêt du sang par application sur les plaies. Le polypore soufré a été également largement utilisé manifestement en Europe centrale, et il l'est toujours un petit peu. Donc on parle de poulet des bois à cause de la texture du champignon et de son goût. C'est effectivement un champignon comestible, mais la comestibilité est discutée, et on retrouve des traces d'utilisation dans les fièvres, dans la toux, dans des douleurs rhumatismales, et puis également dans des cancers gastriques, sachant que la définition traditionnelle ou populaire du cancer, notamment dans des époques anciennes, n'est pas extrêmement claire. Le polypore du bouleau, que trimballe Ötzi et qui est présent sur cette table, Thierry a plein plein de produits médicinaux chez lui, c'est lui qui me l'a passé. Donc le polypore du bouleau a été utilisé, donc il est comestible quand il est jeune. Il était utilisé plutôt en Sibérie et en Finlande, et on a des restes de l'utilisation populaire, donc c'était des utilisations pour améliorer l'état de santé d'une manière générale. On a des restes avec des emplois dans un cadre de cancérologie, notamment en médecine vétérinaire, au début et au milieu du XXe siècle. Le polypore des mélèzes également est cité encore dans les indications de type bronchite, mais également en tant qu'anti-inflammatoire en usage externe. Alors, si on regarde du côté de la pharmacie française, on ne retrouve pas grand-chose par rapport à des utilisations de champignons. Donc, il y a peu d'emplois officiels. Quand on reprend des ouvrages un petit peu anciens de pharmaciens ou de médecins ou des codex, on retrouve quasiment pas de mention d'espèces de champignons. Il y en a quelques-unes qui sont citées, les emplois sont mineurs et les emplois sont jugés comme relativement désuets. On est plutôt sur des polypores, comme j'en ai cité précédemment, beaucoup pour les emplois comme purgatifs. Dans le premier codex pharmaceutique, donc qui est l'ancêtre de la pharmacopée française, publié en 1818, on enregistre seulement des agarics, entre guillemets, qui sont en gros des polypores, et utilisés comme hémostatiques, donc ce qu'on a vu précédemment. Préparation de lanières vendues en pharmacie pour appliquer sur des plaies, éventuellement insertion dans le nez pour arrêter des saignements de nez. Et puis il y a également des mentions d'utilisation pour préparer des moxas, donc notamment de la madouvier. Alors celui qui parle un peu plus que les autres de champignons, c'est Jean-François Cazin, qui a écrit un traité pratique et raisonné de l'emploi des plantes médicinales indigènes au milieu du XIXe siècle. Donc Cazin était un médecin de terrain, donc qui est issu d'une tradition scientifique, mais qui s'intéresse beaucoup aux usages populaires. Et donc il a publié un texte de grande valeur dans lequel beaucoup de plantes sont très largement développées et les parties relatives aux champignons sont particulièrement courtes par rapport à ce qu'on va pouvoir retrouver pour certains végétaux. Donc il cite pas mal d'espèces, je ne les ai pas toutes rapportées, mais notamment l'oreille de Judas. Et on va s'y intéresser un petit peu plus. Donc ce champignon est regardé comme diurétique et astringent. Et on l'emploie encore dans nos campagnes en infusion dans le vin blanc contre l'hydropysie et en gargarisme dans du lait ou du vinaigre, suivant le cas, contre l'angine et l'engorgement des amygdales. Donc on est à nouveau sur des indications qui sont des indications plutôt de la sphère ORL ou bronchique, et on voit qu'il y a quand même une certaine distance du médecin qui est prise par rapport aux utilisations dans un cadre d'automédication. Alors Cazin cite également l'utilisation du polypore du bouleau, que j'ai déjà cité, l'agaric blanc, comme purgatif, hein, ce qu'on retrouvait chez d'autres auteurs, et il se méfie manifestement de son utilisation. Ce médicament agit d'une manière incertaine et produit, dit-on, de vives douleurs intestinales, souvent des nausées et des vomissements. Il cite également l'agaric du chêne ou faux amadouvier. Et là, il reprend les utilisations anciennes par les barbiers et les chirurgiens pour arrêter les épanchements sanguins. Et il y a un champignon sur lequel il va développer un peu plus, dont on a déjà parlé, qui est l'ergot de seigle. Pour l'ergot de seigle, il y a une tradition manifestement très ancienne d'emploi en obstétrique, de manière à enclencher, déclencher le travail chez l'homme et chez l'animal, avec des emplois par des sages-femmes traditionnelles ou par des matrones. Donc, ces emplois de l'ergot de seigle ont été très largement repris, en revanche, dans la littérature pharmaceutique et médicale du XIXe siècle et du XXe siècle, du début du XXe siècle, avec des emplois donc pour du travail qui ne commence pas ou pour entraîner l'expulsion d'un fœtus. Et également des emplois en tant qu'anti-hémorragique dans les hémorragies de la délivrance. Et ça nous renvoie à le syndrome de Raynaud avec gangrène, de l'ergotisme. Alors, tous les auteurs, y compris Cazin, citent le fait que c'est extrêmement dangereux, et notamment pour l'accouchement. Donc, on va reprendre un petit peu le texte de Cazin. Ce ne fut pas sans étonnement que j'appris qu'il était d'usage depuis plus de 60 ans dans nos campagnes comme moyen de provoquer l'accouchement, donc pour cet emploi de l'ergot en obstétrique. Alors 60 ans, il est largement en dessous de la vérité, parce que c'est une tradition qui a été extrêmement forte, manifestement. Et donc en Allemagne, les matrones l'employaient pour hâter l'accouchement. Et donc on va retrouver ça également dans des emplois vétérinaires, avec par exemple, dans cet extrait du Garnier Bézanger-Bocquen, donc qui date des années 60, une formule à visée de déclenchement de l'accouchement qui compte de l'ergot de seigle et puis deux plantes notoirement abortives, la sabine et la rue, pour des emplois notamment chez le bovin. Alors si on regarde ce qu'il en est actuellement dans la pharmacopée française, le texte normatif officiel et dans la pharmacopée européenne son corollaire, on ne retrouve que deux champignons. L'ergot de seigle, classé sur la liste B des plantes médicinales, donc des plantes médicinales qui ont un rapport bénéfice-risque défavorable. Un champignon médicinal est assimilé à une plante médicinale, statutairement. Et puis, sur la liste A, donc des plantes utilisées traditionnellement, Wolfiporia coccos, qui est un champignon de tradition chinoise, et ça, c'est dans le cadre de la reconnaissance de la médecine chinoise en médecine européenne. Dans la pharmacopée européenne, aucun champignon mentionné. Un peu plus loin de chez nous, dans la pharmacopée russe, on ne va retrouver que le chaga, dont je vais vous reparler, qui est employé plutôt comme anti-inflammatoire dans la régulation du métabolisme, et puis également dans d'autres indications sur lesquelles je vais développer un petit peu. Et ce chaga, il était important dans la tradition russe, avec une incorporation dans la première pharmacopée. en 1778 en Russie. Donc c'est plutôt pauvre du côté européen, c'est beaucoup plus riche du côté asiatique, pardon, avec une très forte valeur symbolique des champignons, notamment en Chine et au Japon. Donc les champignons étaient facilement des symboles d'immortalité, manifestement. Si on reprend le premier codex médicinal chinois, donc la matière médicale du laboureur céleste, Shenlong Benkao Jing, donc c'est un texte qui est attribué à un auteur qui aurait vécu il y a 5000 ans, mais c'est un texte qui date plutôt du 1er siècle de notre ère. Donc il y a plusieurs champignons qui sont mentionnés. Alors en médecine chinoise, on va considérer des matières premières comme supérieures, des empereurs. C'est plutôt des produits qui peuvent être utilisés sur des longues périodes et qui n'ont pas une forte toxicité, qui ont une certaine puissance et qui sont là pour nourrir l'énergie vitale. Des ministres qui viennent moduler l'activité, qui ne sont pas forcément très faciles à manipuler. Et puis des vassaux ou des assistants qui, eux, sont plutôt utilisés de manière ponctuelle pour soigner des symptômes de pathologie. Donc en catégorie supérieure, on retrouve plusieurs champignons, on retrouve cyganodermes qui préviennent la sénilité, qui prolongent la vie pour rendre immortel. Et on va également retrouver Wolfiporia coccos, que j'évoquais précédemment pour son incorporation dans la pharmacopée française, et qui a des belles indications dans ce texte. Donc il traite la douleur sous le cœur qui est due à l'inquiétude, à l'indignation ou à la peur. Et il peut calmer l'amétérie, nourrir l'esprit et libérer de la faim et de la soif. Et puis on va retrouver deux champignons qui sont en catégorie inférieure. Il y en a un qui est utilisé comme antimalarique et un autre qui est utilisé contre les vers intestinaux, ce qui est réminiscence de ce qu'on a pu voir du côté occidental. Alors dans la pharmacopée chinoise actuelle, donc le texte réglementaire publié par l'Agence du médicament chinoise, on va retrouver plusieurs champignons. On va retrouver Cordyceps sinensis, dont je vais vous reparler, Coriolus versicolor, dont je ne vous reparlerai pas, ou Trametes versicolor. Des ganodermes, Ganoderma lucidum et sinensis, qui sont assimilés. On peut confondre les deux. Des sclérotes d'un omphalia, qui est représenté sur cette diapositive, je ne vous en reparlerai pas. Les sclérotes, c'est des formes qui n'émettent pas de spores, c'est des amas cellulaires qui n'ont pas un but de reproduction. Et puis, le sclérote de Wolfiporia coccos, dont je vais vous reparler. Et du côté japonais, la tradition est manifestement importante et ancienne, hein, comme en Chine. Et d'ailleurs, la médecine japonaise est très largement influencée par la médecine chinoise. Et on va retrouver dans la pharmacopée officielle seulement des polypores. Et puis Wolfiporia coccos, que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises. Mais en Chine, il y a d'autres champignons qui ont un intérêt médicinal, et notamment des champignons de tradition asiatique, dont on fait des extraits qu'on va purifier, qui sont utilisés dans un cadre en particulier de cancérologie. Ça va être le cas pour le Trametes versicolor ou Coriolus versicolor que j'ai cité précédemment, et également pour le lantin des chênes dont je vais reparler. Donc on a des emplois actuels, beaucoup en Chine, une très forte mode actuellement des champignons médicinaux sur lesquels je vous donnerai quelques éléments en fin de présentation. On peut s'interroger sur le degré de connaissance qu'on a de ces champignons d'un point de vue scientifique. Alors quelles recherches sur les champignons médicinaux ? Donc ici, je vous présente un graphique qui montre le nombre d'études publiées en anglais, obtenues à partir d'un moteur de recherche scientifique qui s'appelle PubMed, pour des champignons majeurs. Et on voit qu'on a quand même un certain nombre de publications qui sont réalisées chaque année, avec une recherche qui a débuté seulement en 1920 et qui a été quasiment inexistante jusque dans les années 80, avec un bond dans les années 2000. Et avec pour le champignon le plus étudié, Cordyceps sinensis ou Ophiocordyceps sinensis, à peu près 220 publications l'année dernière. Pour ce qui est largement étudié également, le Reishi, Ganoderma lucidum, avec à peu près 120 publications l'année dernière. Et puis ensuite, ah oui, vous ne voyez pas ma souris, excusez-moi, je montrais navré. Et puis en orange, le Shiitake, le lantin des chênes, qui a fait l'objet de moins de 100 publications, qui fait à peu près l'objet de 80 études publiées par an. Alors, est-ce que ce nombre de publications est important ou pas ? On va comparer avec des plantes médicinales, ce sera plus parlant. Et donc, on voit que si on cumule les citations, ces articles pour ces différents grands champignons, on arrive à peu près 400-500 publications par an. En comparaison, sur la lavande officinale seule, Il y a à peu près 150 publications par an, et quand on regarde le curcuma et la curcumine, on est à plus de 2500 articles par an. Donc on voit que l'ensemble de ces champignons médicinaux, pourtant fortement médiatisés, génèrent finalement une recherche qui est relativement peu importante. Alors tous ces articles de recherche, ils viennent décrire éventuellement des conditions de culture de ces champignons, des données de composition chimique de ces champignons. Beaucoup de travaux in vitro, donc des travaux in vitro, c'est des modèles qui s'éloignent largement de la réalité. On va cultiver des cellules et regarder les effets des champignons. Ça porte beaucoup sur des cellules cancéreuses, dans les problématiques de cancérologie, puis beaucoup également sur des cellules du système immunitaire. Et puis des études chez l'animal et des études cliniques. Et le sésame, dans un cadre thérapeutique, pour démontrer l'activité de quelque chose, c'est de faire des études chez l'humain. C'est même indispensable pour un médicament, finalement. Et c'est ce qui va crédibiliser des emplois, des utilisations médicales. Et donc, pour ces différents champignons, on voit que le nombre d'études cliniques publiées est extrêmement faible. Donc, sur le graphique, une représentation du nombre d'études totales que j'avais présenté tout à l'heure. Et puis, sur la droite, les études cliniques publiées tout au long de cette période entre 1920 et maintenant. Donc, on voit que sur le Meitake, vous connaissez probablement de nom, on n'a eu que 7 articles cliniques publiés, en tout cas en langue anglaise. Pour le Shiitake, 16. Pour le Reishi, le ganoderme luisant, 32. Et pour Cordyceps sinensis, qui se vend extrêmement cher, on peut comprendre, vu l'importance économique de ce champignon, qui est plus d'études que pour les autres, donc 35 études. Et pour les autres champignons présentés sur la diapo, quasiment rien. Donc là, c'est vraiment ce qui est en langue anglo-saxonne. Il est fort possible qu'il y ait beaucoup de littérature publiée en chinois et publiée en russe, mais à laquelle je n'ai pas eu du tout accès. Alors, on va refaire un tout petit peu de chimie. On peut se poser la question des molécules qui seraient actives dans ces champignons. Donc, diversité chimique importante pour les champignons en général, mais finalement, dans les champignons médicinaux, pas tant que ça. Les composés qui sont présentés comme pouvant porter une activité sont soit des polymères de sucre, qui sont plutôt des éléments de structuration de ces organismes, avec notamment la présence de polymères de glucose qu'on appelle des bêta-1,3-glucanes que je vais vous présenter sur une diapositive suivante. C'est des grosses molécules. C'est des composés qui sont dits très polaires, qui sont très hydrophiles, qui traversent très très mal les membranes biologiques, qui ont peu de chances d'avoir une activité en tant que telle par le biais d'une entrée dans l'organisme après ingestion. En l'occurrence, pour ces bêta-1,3-glucanes, on les retrouve de manière systématique dans les champignons médicinaux qui sont plébiscités actuellement, notamment dans des compléments alimentaires. On a des différences structurales qui sont relativement fines. J'y reviendrai. Et globalement, c'est quand même des produits qui sont mal caractérisés, qui sont en mélange avec, pour les bêta-1,3-glucanes qui font l'objet d'évaluations pharmacologiques, une assez mauvaise définition. C'est des extraits fractionnés qui sont testés, donc c'est des mélanges, des soupes pas bien définies qui sont testées. On va également rencontrer des produits en dérivés triterpéniques, donc les triterpènes, c'est par exemple le cholestérol. Ben, les champignons n'ont pas de cholestérol, ils ont de l'ergostérol. Et à partir de ce que de l'ergostérol, il y a pas mal de dérivés différents. Donc là, je vous donne un exemple parmi beaucoup d'autres, un composé du ganoderme luisant, le Reishi. Donc ce type de composé peut avoir des activités anti-inflammatoires ou des activités cytotoxiques, donc de toxicité directe sur des cellules cancéreuses. C'est des activités qui sont quand même relativement limitées, mais ça peut contribuer à un effet global. Et puis, pour certains champignons, on va retrouver des nucléosides en quantité assez importante, des nucléosides modifiés. Les nucléosides, c'est des constituants de l'ADN ou de l'ARN. Et il y a pas mal d'antiviraux qui ont des structures nucléosidiques dans des médicaments classiques. Donc, notamment dans Cordyceps sinensis, on va retrouver pas mal de nucléosides modifiés qui ont des activités biologiques. Alors, quelles données pour tout ça ? Donc, si on s'arrête quelques instants sur le Meitake, Grifola frondosa, donc c'est le polypore en touffe. Tous les champignons que je vais vous citer sont plutôt de tradition asiatique, mais ils sont rencontrés en Europe, et notamment en France. Donc, ce champignon est consommé d'un point de vue alimentaire, ce qui a été évoqué dans la conférence de Sophie, et ses emplois actuels sont plutôt dans un cadre de cancérologie, l'évaluation en cancérologie. Donc, on n'a pas de données cliniques probantes ou très probantes, on n'a que 7 études cliniques, mais on a beaucoup de données chez l'animal. Alors, dans les modèles animaux qui ont été utilisés, on prend des souris qui ont un système immunitaire déficient, on leur greffe une tumeur et on leur administre le produit, on voit ce qui se passe. Et on va notamment mesurer le volume de la tumeur. Et donc, vous voyez sur la gauche des volumes tumoraux traités, enfin de souris traitées. Sur la droite, c'est des souris qui n'ont pas reçu le maïtake ou d'extrait de maïtake, et on voit qu'on est très nettement en faveur d'une diminution du volume de la tumeur. Donc un effet antitumoral qui est du coup objectivé chez l'animal dans différents types tumoraux, plutôt des cancers du sein en l'occurrence, et avec des administrations qui sont plutôt par voie orale, éventuellement par voie intrapéritonéale, où on va directement piquer l'animal pour lui injecter le produit. Et puis sur les études cliniques, elles portent sur des fractions qui contiennent ces bêta-1,3-glucanes, donc ces polymères de sucre, avec des essais sur des produits finalement assez variés par voie orale, sur des périodes relativement longues chez des patients cancéreux qui suivent un traitement par chimiothérapie par ailleurs. Et on n'observe pas forcément de diminution du volume de la tumeur qui peut être objectivée, qui peut être rattachée à l'utilisation du maïtake, mais en revanche, les patients ont une qualité de vie qui est supérieure. C'est-à-dire qu'ils subissent moins lourdement les effets de leur chimiothérapie ou de leur radiothérapie. Pour le shiitake, le lantin des chênes, donc, qui est comestible et qui est largement cultivé, on a également un petit peu de données. Donc là, j'ai pris un exemple de bêta-1,3-glucane. Donc on parle de lantinane pour les bêta-1,3-glucane du shiitake. Donc bêta-1,3-glucane, ça veut dire que on a, donc ça c'est une entité glucose. On a des liaisons qui vont se faire entre la position 1 et la position 3, ce qui n'est pas très très fréquent. Et on est sur des molécules qui ne sont constituées que de glucose, c'est des molécules qui sont dites branchées, c'est-à-dire qu'on a des ramifications par des liaisons entre la position 1 et la position 6. Donc ça, c'est caractéristique de champignons. Et d'un champignon médicinal à l'autre, on va avoir des espacements des ramifications qui ne seront pas les mêmes et la taille globale des molécules pourrait être différente. Donc pour le lantinène du shiitake, on est en moyenne sur à peu près 280 unités glucose qui sont accolées. Alors on a bien objectivé l'activité antitumorale chez l'animal pour le lantinane et on a pu élucider assez bien le mécanisme d'action. En fait, le lantinane est reconnu par des macrophages, donc qui sont des cellules du système immunitaire qui sont exprimées au niveau intestinal et ces macrophages font remonter l'information et pour activer l'ensemble du système immunitaire et pour activer de la production de médiateurs chimiques du système immunitaire et pour activer des cellules effectrices du système immunitaire qui vont avoir tendance à venir détruire ou attaquer la tumeur. Donc on est sur des phénomènes d'immunostimulation anticancéreuse, ce qui est un mécanisme d'action assez original. Alors le lantinane est employé au Japon en traitement adjuvant des cancers, plutôt pour améliorer la qualité de vie en l'occurrence. Donc c'est en co-administration avec une chimiothérapie classique ou pour accompagner une radiothérapie. Alors le shiitake n'est pas sans risque. Alors cette stimulation de l'immunité, elle est mise en évidence par le fait qu'on a des réactions allergiques, par une surstimulation du système immunitaire, par des consommations de lantin des chênes crus. Donc il y a eu un rappel de l'Agence de sécurité des aliments à ce propos. Donc on va observer des dermites flagellées qui sont assez impressionnantes chez des gens qui ont consommé des compléments alimentaires contenant de la poudre de shiitake ou qui ont consommé le shiitake à l'état cru. Donc là, il y a un rappel sur le fait qu'il est important soit de consommer d'un point de vue alimentaire en ayant cuit le produit, soit qu'il faut utiliser des extraits préparés à chaud. Alors, autre champignon qui peut présenter un intérêt comme anticancéreux, le chaga. Donc, c'est un qu'on appelle également polypore incrusté. C'est un champignon qui vient se développer sur les bouleaux et qui tue les bouleaux et qui fait partie du paysage classique de la taïga. Donc ce chaga, il est utilisé en Russie de manière traditionnelle depuis longtemps et il a été employé, il est employé comme adjuvant dans la prise en charge de cancer et Solzhenitsyn le cite pour ses emplois en infusion dans son ouvrage Le pavillon des cancéreux. Alors on retrouve des produits à base de chaga sur le marché pharmaceutique russe avec notamment un extrait qui est vendu sans ordonnance qui est plutôt destiné à la prise en charge de problèmes dermatologiques avec une activité a priori immunitaire. Autre champignon important, le reishi, donc le ganoderme luisant, champignon qui est associé à la longévité, qui est dit tonifier le qi dans la pharmacopée chinoise, et pour lequel on a des données cliniques en cancérologie, principalement sur du cancer du sein, avec à peu près 200 patientes qui ont été suivies avec une administration de reishi. On observe une amélioration des paramètres immunitaires et de la qualité de vie. Et il y a actuellement des travaux sur les activités sur le VIH, toujours par stimulation du système immunitaire, mais qui ne sont pas suffisamment probants pour avoir des emplois. Je suis un peu en retard. Je vais sauter pour Diacocos. Et je vais aller directement au cordyceps. Le dernier champignon médicinal dont je vais vous parler, c'est Cordyceps sinensis ou Ophiocordyceps sinensis, qui est un champignon entomopathogène qui se développe dans des chenilles. Et donc, qui est une plante supérieure de la pharmacopée chinoise, et qui, à la pharmacopée chinoise, dans sa dernière édition, dans son avant-dernière édition, est dit pouvoir traiter l'impotence et les problèmes d'émission séminale, et améliorer les douleurs au niveau du dos et au niveau des genoux. Donc plutôt des produits qu'on utiliserait pour lutter contre des phénomènes de vieillissement. Et globalement, le cordyceps est positionné en tant qu'adaptogène. Un adaptogène, ce qu'on va retrouver pour le ginseng par exemple, c'est un produit qui va améliorer la résistance au stress et qui va diminuer la fatigue. Il y a également des emplois en tant que stimulant sexuel pour le cordyceps, et puis un peu d'emplois en pratique sportive avec notamment des athlètes chinois qui disent l'utiliser pour améliorer leur performance. Alors ce cordyceps, il est obtenu initialement par cueillette, et il pousse exclusivement dans des hauts plateaux tibétains, avec une surexploitation qui est extrêmement importante. Je n'ai pas le temps de développer, mais la mode du cordyceps a modifié très très largement les conditions de vie des populations locales, en entraînant finalement un rejet de certains modes de vie traditionnels. Il y a également une pression sur le champignon qui est extrêmement importante. Il est en passe de disparition et on cultive son mycélium pour pouvoir satisfaire la demande. Donc là, pour le cordyceps, beaucoup d'emplois, mais il n'y a pas de données cliniques qui vient à l'appui des différentes indications. Alors on a vu qu'il y avait pas mal d'emplois potentiels ou en tout cas de recherche en cancérologie pour les champignons. On peut se poser la question des champignons en général qui contiennent facilement des bêta-introglucanes par rapport à un effet bénéfique pour la santé. Dans un cadre de consommation alimentaire, est-ce qu'il y aura une protection contre les pathologies cancéreuses? Donc il y a plusieurs méta-analyses, donc c'est des collations de données obtenues chez l'humain qui sont disponibles par rapport à ça. J'ai gardé exclusivement celles qui étaient en population générale et qui ne visaient pas que des populations asiatiques, pour lesquelles il y a également une consommation de soja qui peut avoir une influence sur des pathologies cancéreuses et leur survenue. Mais une étude avec un suivi de 15 000 patients sur 19 ans a montré qu'il y avait une amélioration de la survie par rapport au développement de cancer. D'autres études portant sur 7 000 ou 20 000 patients, suggèrent des diminutions de l'incidence de certains cancers de 3% à 35% pour 1 gramme de champignons consommés de manière alimentaire par jour. Donc on aurait plutôt un effet protecteur. Il y a des données plutôt favorables sur des cancers du sein, des cancers de la prostate. Pour deux types de cancers, on n'a pas d'effet protecteur. Alors évidemment, c'est difficile de savoir quelle est la part réelle du champignon par rapport à d'autres éléments d'alimentation. Et il y a pas mal de travaux qui suggèrent que certains champignons sont plus particulièrement intéressants pour certains types de cancers, et notamment Trametes versicolor ou Coriolus versicolor, qui est représenté à l'écran, qui serait protecteur du cancer de la prostate. Donc ce type de données a tendance à favoriser la consommation de compléments alimentaires. Donc on a une mode du complément alimentaire contenant des champignons médicinaux avec des indications qui ne sont pas forcément exactement celles de la tradition, mais globalement on est plutôt sur des produits qui amélioreraient la résistance au stress, qui amélioreraient les états de fatigue, donc des adaptogènes. Il n'y a pas de données pour le marché français ou européen, mais en revanche on a des données pour le marché américain. Donc les compléments alimentaires à base de plantes ou assimilés aux États-Unis, c'est plus de 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires. En septième position des ventes en magasins spécialisés, on a les champignons médicinaux hors reishi, galoderme, et hors cordyceps. Et le cordyceps arrive en 28e position des ventes avec près de 4 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et le reishi a plus de 3,9 millions de dollars de chiffre d'affaires, ce qui implique du coup un certain tonnage, un certain volume. Donc, ce qui peut poser question, notamment pour le cordyceps, qui théoriquement est plutôt récupéré à l'état sauvage et dont le mycélium n'est cultivé que depuis relativement peu de temps. Alors, ça pose question par rapport aux besoins pour satisfaire cette demande, et notamment par rapport à des problématiques de qualité ou de fraude. Donc, l'Agence de sécurité des aliments avait publié un avis relatif à une liste positive des champignons pouvant rentrer dans des compléments alimentaires et mettait en avant un certain nombre de problèmes. Est-ce que les formes proposées dans les compléments alimentaires sont conformes ou non à la tradition? La tradition étant quand même un relatif gage d'innocuité. Sur des formes non traditionnelles, on peut avoir des problèmes de toxicité qui n'apparaîtraient pas dans un autre cadre. Les procédés de transformation jouent beaucoup en particulier. Donc on peut revenir sur le lantin des chênes et sur les dermites allergiques qui sont observées quand on ne le fait pas cuire, par exemple. C'est typiquement ce type de problématique. Alors, ce qui est beaucoup proposé par des labos actuellement, c'est des mycéliums qui sont obtenus par de la culture en laboratoire, la culture industrielle, avec une déshydratation. Donc, on s'éloigne beaucoup de l'infusion de chaga ou d'une infusion de galoderme luisant. Donc, pour un certain nombre de ces mycéliums déshydratés, en Europe, statutairement, on considère que c'est des nouveaux aliments. Donc, un nouvel aliment, c'est un produit qui a été mis sur le marché après 1997 à des fins alimentaires et qui doit faire l'objet d'études de sécurité. Et en l'occurrence, on n'a pas forcément ces études de sécurité, donc on n'a pas d'autorisation pour un certain nombre de ces produits. On peut s'interroger sur la pertinence d'ailleurs d'utiliser le mycélium plutôt que le sporophore qui s'utilisait traditionnellement. Les compositions ne sont pas les mêmes. Après, dans les autres problématiques, quid de la conservation des champignons qu'on va mettre dans les compléments alimentaires, ça moisit assez facilement, rapidement. Quid des contaminants, les champignons concentrent très très bien les métaux lourds. Quid de l'identification, on a des problèmes de taxonomie simple, la dénomination est déjà complexe, et puis l'identification d'un champignon n'est pas forcément facile, et encore moins si c'est de la cueillette par des gens qui sont mal formés. Et puis on a des problèmes de fraude, évidemment. Et on peut s'interroger sur la pérennité des ressources pour les champignons qui sont prélevés dans la nature. Donc on a des études qui montrent que la qualité des compléments alimentaires à base de champignons médicinaux n'est pas bonne. Notamment pour le galoderme luisant, il y a des études en France qui montraient que ce n'était pas le bon galoderme, ce n'était pas le luisant qui était retrouvé dans des produits. Là, je vous montre sur l'image orange une étude qui a été menée par le groupe de la pharmacopée américaine qui montre que 3/4 des compléments alimentaires au reishi, ce n'est pas du reishi, c'est autre chose. Et puis là en bas, un article paru l'an dernier, mais il y en a beaucoup, j'ai un peu pris au hasard, l'article paru l'an dernier qui s'intéresse aux compléments alimentaires à base de champignons médicinaux du marché italien. Énormément de métaux lourds, beaucoup plus que ce qui est normalement admis, et beaucoup de problématiques d'identité qui relèvent soit de la fraude, soit de l'amateurisme dans la préparation du produit. Et je vais conclure cette conférence en vous parlant un petit peu d'un développement thérapeutique vraiment spécifique pour des champignons également très particuliers. Les champignons à psilocybine. Donc la psilocybine, c'est un composé fortement hallucinogène qui est rencontré dans des psilocybes, pas tous, et dans d'autres champignons, avec présence sur le territoire français ou européen, par exemple le psilocybe semi-nancéolé, pour lequel on n'a pas de tradition d'utilisation à des fins rituelles, ou encore en Amérique centrale, avec par exemple psilocybe mexicana, qui a fait l'objet d'une médiatisation importante dans les années 60-70, avec notamment Maria Sabina, une chamane péruvienne qui a fait l'objet d'enquêtes ethnomycologiques poussées qui avaient été menées notamment avec Hoffman, que j'évoquais tout à l'heure. Alors, la psilocybine et les champignons à psilocybine n'ont pas été spécialement étudiés d'un point de vue thérapeutique. Les emplois traditionnels peuvent être de la thérapeutique magique, donc on aboutit à l'extase pour soigner. Mais on s'intéresse à la psilocybine et à ces champignons dans un cadre psychiatrique actuellement en biomédecine occidentale, avec une autorisation d'études cliniques qui a été donnée par la Food and Drug Administration aux États-Unis en 2018. Alors, suite en fait au développement de certains antidépresseurs à caractère hallucinogène, il y a eu une levée de verrou. Et donc la psilocybine est étudiée dans des dépressions majeures pharmacorésistantes. Donc on a épuisé tous les antidépresseurs possibles chez des gens fortement déprimés qui ont des fortes envies de mort. Et les psilocybes ont manifestement tendance à très très largement améliorer leur état. Et les travaux cliniques ont débuté en France. Une étude clinique qui a été lancée en 2022 chez des grands dépressifs en échec thérapeutique. Alors j'ai représenté ici les études cliniques sur les champignons à psilocybine. On voit qu'il y a eu des tentatives d'études dans les années 60. Donc là, c'était de la psychiatrie plutôt en schizophrénie. Ça n'améliore pas spécialement les schizophrénies. Et puis, un regard d'intérêt récent. Et ça va continuer à se développer. Donc là, il y a eu une quarantaine d'études au final sur des dépressions majeures, sur de la prise unique sous contrôle psychiatrique en milieu hospitalier. Ça améliore très, très largement les patients. Et également un petit peu de travaux dans l'addiction, sur les addictions au tabac ou à l'alcool. Et un intérêt potentiel dans la prise en charge du stress post-traumatique. Et on remarquera que la psilocybine est utilisée dans certains pays en usage compassionnel pour accompagner des fins de vie, en Suisse et aux Pays-Bas. Donc j'ai un peu dépassé, mais j'arrive à la conclusion. Pour conclure, on voit qu'on a une tradition des champignons thérapeutiques qui est quand même extrêmement ténue en Europe, avec plutôt une recherche d'effets purgatifs qui n'a pas été spécialement entretenue dans un cadre pharmaceutique, et puis des emplois plutôt de type matériel médical avec des des emplâtres pour empêcher les hémorragies. Par contre, la tradition est extrêmement forte en Asie. On a des données scientifiques, mais elles sont relativement peu nombreuses. La recherche est moins importante que je ne l'aurais imaginé au moment où je commençais à préparer cette conférence. Mais on a des données très encourageantes et assez convaincantes dans les soins de support en oncologie pour les médicaments majeurs de la tradition, notamment Reishi, Shiitake et Chaga. Pour l'utilisation comme adaptogène, revendication principale des laboratoires de compléments alimentaires, il n'y a pas d'intérêt démontré, mais il y a une tradition qui est forte. Donc voilà, la tradition est quand même généralement relativement pertinente, voire très pertinente. Pour d'autres revendications assez classiques, sur lesquelles je n'ai pas du tout insisté, du type amélioration du métabolisme chez des diabétiques ou des personnes en syndrome métabolique, les effets sont extrêmement incertains par rapport aux données de la recherche. Mais il est clair que la consommation de champignons est plutôt meilleure pour quelqu'un qui est en hyperlipidémie que la consommation de barres chocolatées. Alors, quel produit employer ? Est-ce qu'on doit employer des produits à base de champignons ? Globalement, il vaut mieux s'être collé au maximum à la tradition. Des extraits à queue, de la tisane, avec une identification suffisamment sûre. Les formes innovantes doivent encore démontrer leur sécurité et leur efficacité. Et je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions. Ce n'est pas les mêmes compositions de bêta-1,3-glucane, du tout. En structure intrinsèque des bêta-glucanes. Ce n'est pas les mêmes compositions en triterpènes. Donc les compositions sont... les différences de composition ne sont pas non plus très, très bien objectivées dans la littérature, malheureusement. Mais voilà, les travaux montrent que ce n'est pas les mêmes compositions. Après, on a une inconnue quand même, c'est le fait que mesurer des quantités de bêta-glucane, il y a plusieurs méthodes qui ne sont pas forcément homogènes. Donc d'une étude à l'autre, si on n'utilise pas la même méthode, on a quand même des différences. Et les structures sont difficiles à établir également. C'est des méthodes un peu... Enfin, ouais. D'un point de vue vraiment de chimie structurelle, c'est relativement complexe. Les caractérisations ne sont pas très très bonnes.
Oui, bonjour. Oui. Un témoignage et deux questions.
Oui.
Le témoignage, il y a une quarantaine d'années, j'avais un ami qui a été atteint d'un cancer, la maladie de Hodgkin, et j'ai essayé de me procurer du béfunginome. Il a mis beaucoup de temps à arriver, et quand il est arrivé, c'était trop tard. Bon, ça n'aurait sans doute pas changé le cours des choses. Et mon épouse et moi, on a bu le flacon de béfunginome à titre préventif. On est toujours là, on n'a jamais eu d'ennui. Bon, d'ici à en tirer des conclusions de cause à effet, je n'irai pas jusque-là. La question. Première question, à la faculté de pharmacie de Clermont, Jean Guyot avait lancé une idée à une époque qui sans doute a fait long feu. Il avait constaté que chez un hygrophore, Hygrocybe hypotégus, il existait une enzyme, je crois, qui avait la propriété de se fixer sur les cellules cancéreuses. Et son idée, c'était donc d'accrocher à cette enzyme un produit antitumoral pour aller vaincre le mal directement à la source. Je ne sais pas ce qu'est devenue cette idée. Est-ce qu'elle a fait long feu? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Je ne sais pas.
Alors,
j'enchaîne avec la deuxième question.
Je veux bien répondre à celle-là avant d'oublier. L'inconvénient sur une enzyme, c'est sa stabilité. Donc, en tout cas, il faut faire de l'injection pour que ça puisse effectivement se retrouver dans l'organisme. Sinon, c'est dégradé très facilement au niveau intestinal et mal absorbé au niveau, au niveau gastrique et intestinal. Mal absorbé au niveau intestinal. Il y a du ciblage d'anticancéreux qui se fait actuellement en thérapeutique. Ça se fait par le biais d'anticorps, éventuellement d'acide folique. Donc elle est ciblée à la cellule cancéreuse par rapport à son métabolisme ou par rapport à une spécificité, une reconnaissance de surface cellulaire, ça se fait largement. Pour ce cas particulier, je ne connais pas de suite. Je ne sais pas dans quel service travaillait votre collègue, mais en tout cas, dans ma discipline, je sais qu'il ne bosse pas là-dessus. Et sinon, votre remarque par rapport à Béfingine, j'aurais dû le préciser, j'ai oublié de le faire, mais globalement, tous ces produits, tous ces champignons semblent extrêmement bien tolérés. Et dans les études cliniques, il n'y a pas d'effet indésirable sévère, hormis les phénomènes allergiques que j'ai évoqués pour le ganoderme luisant. Et donc, Befengine est un produit qui semble sans risque important. Et donc, votre autre question ?
Alors, ma deuxième question, elle est relative à Claviceps purpurea, donc l'ergot du seigle, que je rencontre très, très rarement sur le seigle. Par contre, que je rencontre très, très fréquemment sur Molinia, la Molinie bleue, en bordure des tourbières. Est-ce que c'est le même champignon ou est-ce que c'est quelque chose de différent ?
Spécifiquement, je ne saurais pas vous dire, mais Claviceps purpurea ne se développe pas que sur le seigle. Il est fréquent sur le seigle, mais on le retrouve sur d'autres céréales. Et là, pour la Molinie, je suis incapable de vous dire si c'est purpurea ou un autre Claviceps.
D'accord. Merci.
Il y a une question dans le fond. Je crois qu'il faut que vous attendiez le micro parce que sinon, la salle entend très mal.
Oui, c'est une question par rapport à la patuline.
Oui.
Voilà, moi, je produis pas mal de pommes séchées. Il se trouve qu'après analyse, on retrouve pas mal de patuline dedans, oui, puisqu'elles sont issues de la nage. Et je fais également pas mal de jus de pommes avec ces mêmes pommes, qui est pasteurisé et qui monte à 83 degrés, je crois. Du coup, je voulais savoir si la patuline était également présente dans mon jus de pommes ou pas.
Probablement un peu, oui. La recommandation, c'est de ne pas prendre des pommes qui sont trop gâtées. Vous avez une norme pour la patuline dans les cidres et les jus de pommes, qui doit être à 50 microgrammes par kilo ou par litre. Donc ça fait 50 ppb, c'est bas. Mais la patuline est une molécule qui n'a pas démontré, on n'a pas réussi à identifier de toxicité chez l'homme, mais de par son mécanisme même d'action et son activité chez l'animal, il n'est pas illogique que les seuils fixés soient bas. C'est un génotoxique mutagène qui est vraiment puissant. Autant, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, sur les alcaloïdes pyrrolizidiniques, je ne suis pas persuadé du fait que les seuils qui ont été fixés soient pertinents d'un point de vue de risque réel pour la santé, même s'ils sont tout à fait logiques d'un point de vue d'évaluation du risque et de gestion du risque. Pour la patuline, c'est quand même un composé qui est assez violent, quoi. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Et après, je ne sais pas comment, s'il y a des contrôles des GCRF de temps en temps, parce qu'il y a bien une norme patuline, hein, et notamment pour les produits transformés de la pomme. Oui, je présume. Bah, la pasteurisation, on va dire que c'est trop tard, en fait. Hein, la moisissure, elle s'est développée. Voilà. C'est vraiment une problématique de développement de moisissure. Je ne peux pas répondre mieux à votre question que ça. Et pour la norme, je suis plus ou moins sûr parce que je l'avais révisée pendant midi. Parce que j'ai eu la même question hier.